Reportages, débats, interviews, le magazine du samedi, le rendez-vous hebdomadaire de la rédaction de Cocktail FM, le samedi à 9h30 sur Cocktail FM, la radio des Hauts-de-Vosges.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag du samedi sur Cocktail FM consacré ce matin aux Imaginales d'Épinal, le festival de l'imaginaire. L'imaginaire pourrait-il transformer l'encre en or? C'est en tout cas l'effet bien réel produit par cette 9e édition des Imaginales d'Épinal consacré aux mondes et littératures de l'imaginaire. Plus de 110 écrivains, près de 15 000 festivaliers et un nombre colossal de livres dédicacés par leurs auteurs jusque demain dimanche. Autant dire que ce genre est plus populaire que jamais. À quoi est dû cet engouement du public pour une littérature longtemps mise au banc par la critique? Dans un instant, explication passionnée de Bernard Vis, directeur et créateur des Imaginales, au micro de Jean-Christophe Givor, bien décidé à comprendre aussi comment faire pour écrire des histoires. Car les Imaginales innovent cette année avec un premier atelier d'écriture. Pendant 2 jours, 15 stagiaires ont appris les mécanismes de l'écriture, mais aussi ceux de l'édition, guidés par des spécialistes. Immersion immédiate dans ce monde bien concret de l'imaginaire à la bibliothèque multimédia d'Épinal.
Bernard Vis, vous présidez au destiné des Imaginales depuis leur création, donc depuis 9 ans maintenant. Comment l'idée est-elle venue?
Oh là, ça c'est l'histoire, la préhistoire. Oui, l'idée est peut-être venue en 99-2000. C'est une demande évidemment du maire d'Épinal, de la ville d'Épinal, qui est l'organisatrice de ce festival. Et il était question de trouver une idée d'une manifestation importante à Épinal, qui en a déjà beaucoup, mais voilà, on essayait de trouver quelque chose d'original. J'ai cherché un petit peu la manière de faire, parce que c'est pas forcément une gageure. Et je suis attiré depuis longtemps, très longtemps, par le livre, l'édition, l'écriture, bien sûr, à titre personnel et professionnel. Et je me suis dit, un festival, un salon littéraire, ça serait pas mal. En revanche, il y en a 4000 et quelques en France. Donc j'ai commencé à regarder d'une manière assez précise ce dont on parlait dans ces salons, le genre d'auteurs qui y étaient réunis. Et je me suis aperçu assez rapidement que les littératures de l'imaginaire n'avaient pas le droit de citer comme elles pourraient peut-être le prétendre. En tout cas, comme les chiffres de l'édition semblent leur permettre de se montrer. Et donc je me suis dit, on va regarder tout ce qui se passe au niveau des littératures non réalistes. Donc tout de suite, les étiquettes, s'il faut mettre des étiquettes, je ne suis pas tout à fait d'accord pour les étiquettes, parce qu'un bon livre, c'est d'abord un bon livre, et une belle histoire, ce n'est pas une étiquette. Mais pour aller simple et pour dire à vos auditeurs, bon, ça concerne la fantasy, c'est-à-dire genre Seigneur des Anneaux, genre Harry Potter, genre enfin, ce genre d'Avatar, si on veut. Voilà, il y a beaucoup de choses au cinéma, et le cinéma capte facilement l'attention du public. En revanche, la littérature semble être une littérature de seconde zone, ce qui est faux. Il y a autant de bons livres en littérature générale que dans la fantasy ou la science-fiction, pour revenir sur mes étiquettes, ou sur le fantastique, ou les contes et légendes, ou le roman historique que nous avons glissé à partir de la deuxième ou de la troisième année.
Un petit peu aussi le fait peut-être de critiques très parisiens qui mettraient un petit peu cette littérature-là de côté comme étant trop populaire.
Je ne sais pas si vous dire comme ça. Des fois, quand j'ai mauvais esprit, j'ai souvent mauvais esprit. Je pense que le plaisir est en toute chose banni, et que quand on commence à prendre son plaisir en lisant de bons textes, peut-être que ce n'est pas bien. Il faut en plus avoir d'autres choses. Je caricature, je m'en excuse auprès de vos auditeurs, mais il y a peut-être quelque chose comme ça. C'est une littérature du plaisir, mais qui n'empêche pas la réflexion. Il y a beaucoup d'ouvrages de science-fiction qui traitent des problèmes que nous avons aujourd'hui dans notre société, notre démocratie, nos relations politiques, etc., de notre monde d'aujourd'hui, qui sont traités d'une manière un peu forte, enfin, dans un siècle ou dans deux, et qui nous incitent à réfléchir sur notre monde actuel et pas sur le monde qu'il pourrait être dans 2, 3, 4 ou 100 siècles.
Ah ben on pourrait d'ailleurs prendre comme exemple un fidèle parmi les fidèles des Imaginales, je pense à Bernard Werber.
Absolument, nous avons de nouveau la présence de Bernard Werber au sein du festival, et nous en réjouissons parce qu'il porte assez haut les couleurs de l'imaginaire en France et dans le monde, comme vous le citez. Mais il y a beaucoup d'autres auteurs. Les Imaginales, on a l'intention de faire venir des auteurs des États-Unis, par exemple. Cette année, il y en a quand même plusieurs, dont Jacqueline Carré, qui est très connue. On a Robin Hobb, d'autres années, elle reviendra normalement l'année prochaine. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais nous avons aussi des auteurs français importants, comme Pierre Bordage, comme Pierre Pelot, qui est vosgien aussi, mais qui est un écrivain national, enfin d'audience nationale, voire internationale. Mais nous faisons également attention, autant que faire se peut, aux auteurs régionaux, voire locaux. Nous avons des invités chaque année qui sont importants, on va dire, ou pas connus. Nous, cette année, nous avons décidé d'inviter une dizaine d'auteurs dont c'est le premier roman. Et nous en sommes fort fiers et nous y sommes très attachés.
Et on vient de loin et même de très loin pour participer ou simplement assister aux conférences des Imaginales, pour preuve que la littérature de l'imaginaire est réellement très très populaire. Mais chiffrer la fréquentation n'est pas très facile.
Oui, c'est difficile parce que les deux premières années, nous avions fait payer les entrées, donc nous avions des idées très précises sur la fréquentation. Depuis 6 ou 7 ans, nous ne le faisons plus, donc l'entrée est complètement gratuite, sauf au cinéma bien sûr, et au concert de Nahuel Beuk samedi soir, pour des raisons d'ailleurs de place, bêtement. J'aurais bien voulu ouvrir la salle, mais le chapiteau sur lequel nous pouvons donner ce spectacle ne peut contenir que 300-350 personnes, donc nous avons dû limiter de cette manière-là les entrées. Bon, je pense qu'on est autour de 12 000, 15 000 entrées, mais il faudrait vraiment que je mette des compteurs à l'entrée, ça m'est difficile pour l'instant. Mais sur les 4 jours du festival, je pense qu'on est à peu près dans ces eaux-là. Il faut savoir aussi que le festival draine d'autres publics, c'est-à-dire que nous sommes, par exemple, ce soir, mercredi, nous sommes à Metz, nous sommes à Bourbonne-les-Bains, nous serons lundi à Strasbourg, nous étions il y a un mois à Montpellier, donc vous voyez, nous sommes aussi à Nancy, bien sûr. Donc il y a beaucoup d'initiatives qui se déroulent en dehors même des 4 jours. Donc je ne suis pas très capable de dire combien nous sommes. Mais il y a beaucoup de festivaliers qui viennent d'un petit peu partout et les buzz sur les forums et sur Internet semblent nous indiquer qu'ils viennent de partout aussi. Je vous ai dit tout à l'heure de Vannes, donc voilà, mais il y a beaucoup de gens de la région parisienne, il y a des Belges, il y a des Suisses, voilà, de toute la région, évidemment, la grande région Lorraine, c'est évident.
En somme, les Imaginales, c'est réellement une image d'Épinal qui s'exporte bien.
Ben, c'est exactement le but de la manifestation, c'est-à-dire qu'on veut montrer qu'à Épinal, déjà on vit bien, parce que je crois qu'on montre, le festival, c'est pas seulement le festival, c'est la vie qu'il y a autour, et donc on essaye de faire connaître nos équipements, nous sommes à la BMI là, aujourd'hui, mais aussi nos restaurants, nos hôtels, nos autres équipements, le cinéma, le planétarium, enfin beaucoup de choses, et la qualité de vie en général qui est celle d'Épinal qu'il faut vendre, et je crois que l'image de ce festival très convivial est originale dans les festivals qui existent en France. On nous le dit très régulièrement, ça nous va droit au cœur évidemment.
Ma dernière question sera plus personnelle. Un auteur que vous rêveriez d'avoir aux Imaginales et que vous n'avez pas encore eu?
Ben écoutez, je ne vais pas vous en citer parce qu'en fait, on en a encore beaucoup. Il y a des auteurs américains qu'on n'a pas encore pu approcher, mais on a des cibles, je vais vous dire. Mais je ne vais pas vous les donner aujourd'hui parce que nous vivons quand même dans une certaine concurrence avec d'autres festivals. Et donc nous essayons, avant d'avoir notre contrat signé, j'allais dire avec les auteurs, de ne pas trop en faire la publication avant. Alors, excusez-moi d'être si comme ça, mais je suis aussi et avant tout un organisateur jaloux de l'organisation, de la bonne organisation du festival.
Smell of you in every single dream I dream. I knew when we collided,
magazine du samedi, le samedi à 9h30 sur Cocktail FM, la radio des Hauts-de-Vosges.
Nous sommes mercredi matin, d'assez bonne heure. Les imaginales n'ont pas encore commencé et nous sommes à la bibliothèque multimédia intercommunale, autrement dit la BMI d'Épinal, où un atelier d'écriture sur l'imaginaire débute.
Ah oui, effectivement, sur AOC, on a reçu un texte qu'on a publié et on a
dit... Il y a une clause dans les contrats de...
Oui, mais les contrats, c'est autre chose.
Il y a une clause disant, vous garantissez que votre texte est original et blablabla.
Voilà,
bla,
voilà.
Oui, mais là, c'est un fanzine, donc...
Là, c'est pour ça, alors faut peut-être avoir un contrat, même pour un fanzine.
Une lettre d'entente.
Bonjour, je m'appelle Lionel Davoust, je suis auteur et traducteur en littérature de l'imaginaire et donc en intervention pour cet atelier.
Eh bien moi je suis Elisabeth Von Harbourg, je viens du Québec mais je suis d'origine française, je suis écrivaine, traductrice, directrice littéraire, de temps en temps chargée de cours justement pour des cours de création littéraire et je viens pour, comme Lionel, parler de mon expérience multiple et aider des gens à se dépatouiller un peu des méandres de l'écriture et de la publication.
Je crois d'ailleurs que vous avez publié un livre qui propose quelques explications pour commencer à écrire.
Oui, un livre dont je suis très fière et qui est à sa 4e réédition. J'ai donc dû faire quelque chose de correct. Ça s'appelle « Comment écrire des histoires, guide de l'explorateur ».
Eh bien, c'est la question que je vous retourne à tous les deux. Alors, comment écrire des histoires ?
Waouh ! Vaste sujet sur lequel on passe 2 jours et dont je ne sais pas si on aura entièrement fait le tour de la question. Comment écrire des histoires ? Je citerai éhontément le livre d'Elisabeth qui dit une phrase très juste à mon avis qui est « Mens-moi, mais fais ça bien ». Quand l'auteur écrit une histoire et que le lecteur la lit, il sait que c'est de la fiction, il sait donc que ce n'est pas vrai, il veut que ce soit bien fait. Donc comment écrire des histoires, je pense que c'est essayer de réussir à justement bien faire s'évader, bien faire rentrer le lecteur dans son récit.
Qui dit atelier d'écriture dit que finalement le talent d'écriture ne serait pas inné.
Eh bien non, de la même façon que, les sportifs ont peut-être des dispositions naturelles, biologiques, mais enfin ils s'entraînent. Donc il y a quand même quelque chose, on a un besoin, on a un certain rapport aux mots, on a un certain rapport à son imaginaire, on a vécu des trucs, peu importe, mais ce qu'il y a c'est qu'on a envie de les dire, ou plutôt de les écrire, puisque maintenant on a des conteurs, alors c'est pas pareil. C'est essentiellement de ça qu'il s'agit.
Comment avez-vous vous-même commencé à écrire ?
J'ai fait un rêve. Non, en fait j'ai vraiment commencé à écrire, toute petite j'écrivais des alexandrins. Et après j'ai vu des films qui finissaient mal et je voulais réécrire la fin. Alors j'ai commencé par réécrire Di Alamo, j'ai refait la fin, il meurt pas. Et puis après, j'ai écrit des nouvelles, des petits bouts de texte très autobiographiques. Et là, je suis tombée dans la science-fiction, Dieu merci, et la fantastique et la fantasy, tout en même temps à 15-16 ans. Et là, j'ai fait un rêve dont est sorti plus tard 2500 pages. Ça a pris 34 ans, mais j'ai écrit, j'ai appris à écrire avec. C'est pour ça que j'estime que c'est ça, être écrivain et le talent est un. Pour des raisons X qui sont différentes selon les uns et les autres, on développe un certain rapport. Aux mots.
Ce rapport aux mots qui dure depuis plus de 30 ans, vous avez subi aussi les écueils, on va dire, de l'écrivain qui commence, des erreurs de technique, de contact avec les éditeurs et autres directeurs artistiques. Est-ce que c'est pour ça que vous avez écrit ce petit mode d'emploi à l'usage des débutants ?
Non, en fait, c'est parce que j'avais donné des ateliers d'écriture pour justement les amateurs de science-fiction, de fantastique, etc., pendant une demi-douzaine d'années, et j'étais aussi directrice littéraire d'une revue, Solaris, c'est une revue québécoise francophone. Je me suis dit, mais c'est la même chose que d'apprendre à jouer aux échecs. Vous pouvez regarder des joueurs pendant 10 ans et rien apprendre, enfin, apprendre les pièces comme ça, et puis vous pouvez demander, bon, alors celui-là, il se déplace de cette façon-là et celui-là de cette façon-là. C'est essentiellement ça. Et alors, j'ai donc écrit ce bouquin où j'ai partagé, finalement, mon expérience de l'écriture.
Il est excellent, ce livre. Je le recommande vraiment chaudement. J'en étais un grand client aussi.
Lionel, vous avez commencé tout à l'heure par décrire un petit peu les relations, on va dire, qui existent avec les éditeurs, et puis la façon de les contacter, les trucs et les ficelles. Est-ce que c'est si difficile que ça ? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression, finalement, qu'on envoie un manuscrit et qu'il est mis sur une pile, qui monte jusqu'au plafond, hein, et puis on ne sera jamais lu. C'est une façon de remonter dans la pile ?
Moi, je ne sais pas, je pense pas qu'il y ait de trucs véritablement pour remonter dans la pile, à part si c'est l'éditeur qui vient vous solliciter. Je pense par contre que je voulais vraiment mettre l'accent dans cette intervention sur le professionnalisme qu'il est nécessaire d'avoir, de la même façon que finalement on enverrait un CV à un employeur potentiel. Ce n'est pas parce que nous sommes dans un milieu littéraire, donc artistique, historique, que l'on se comporte différemment et que l'on est forcément, n'est-ce pas, les cheveux dans le vent et sur une falaise entourée d'éclairs. Non, écrire est un métier et c'était véritablement ça qui me tenait à cœur de faire passer, en tout cas dans cette présentation ce matin, c'est que les éditeurs ne sont effectivement submergés de manuscrits, mais ils sont toujours à la recherche de quelque chose de nouveau et d'inventif. Les éditeurs lisent les manuscrits qu'ils ont, mais ils sont aussi recherche de quelque chose de professionnel. Et je pense qu'un écrivain, c'est aussi, en tout cas un écrivain professionnel, comme son nom l'indique, il se comporte comme tel.
Alors parlons un peu des littératures de l'imaginaire, si tant est que ce soit un genre bien à part, qui aurait été peut-être vilipendé un temps par les grands éditeurs bien en place, et aussi par les critiques d'ailleurs. C'est un genre en tout cas qui est très populaire, preuve en est les ventes. Et qu'est-ce qui différencie la façon d'écrire dans le monde de l'imaginaire, dans la science-fiction, la fantasy, d'autres romans plus conventionnels?
Pour ce qui est de la façon d'écrire, rien. L'écriture, c'est l'écriture, point. Ce qui différencie, c'est comme les genres, c'est éventuellement le contenu. Hein. On peut dire, bon, il y a un contenu spécifique, de la même façon qu'un polar, c'est un certain type de contenu en gros. Et bien la science-fiction, le fantastique, la fantasy, c'est un certain type de contenu en gros. Et bon, après, il y a des gens qui mettent des étiquettes, c'est les commerciaux, c'est les libraires qui mettent ça sur des rangées. Mais quand on s'assied à sa table de travail, ou quand on se réveille d'avoir fait un rêve, on se dit, ah, ça va être une histoire de science-fiction. Ou ça va être, je m'en vais écrire une histoire de science-fiction. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On écrit d'abord ce qu'on a envie d'écrire ou ce qui a besoin d'être écrit, et ensuite, quand on commence à penser aux éditeurs, là, on se dit oui, alors c'est quoi exactement mon machin là? Et là, on peut diriger le manuscrit.
J'ajouterais que je pense dans l'imaginaire, bon, c'est toujours une étiquette un peu difficile parce que quelle littérature n'est pas imaginaire, mais je pense que ce que cette étiquette met en avant, c'est peut-être une certaine façon d'aborder le monde, peut-être légèrement différente, une façon de, voilà, en biais comme dit Elisabeth, une façon de considérer que peut-être notre monde, il y a autre chose au-delà de ce que ce qu'on peut en voir. Je pense que l'auteur d'imaginaire regarde ce qui l'entoure et se dit il y a davantage, avec ce davantage je vais en faire une histoire qui va peut-être apporter une dimension au lecteur.
Je ne sais pas si c'est tellement davantage qu'autrement, parce que davantage, oui. Tous les écrivains voient davantage, oui, que le monde qui est là, sinon ils n'écriraient pas, mais c'est autrement. Comment est-ce que ça pourrait être autrement? Est-ce que ça pourrait être autrement? Oui, et comment? Et alors bon, à partir de là, on peut dériver, et ça nous permet justement de porter un regard sur le monde qui est, avec ce qu'il pourrait être, ou ce qu'il devrait être, ou ce qu'il ne devrait surtout pas être. Bon, donc il y a toutes ces possibilités-là de regarder ce qui est en faisant un pas de côté, en quelque sorte.
Ces littératures-là, comme toute littérature, ne font que nous parler de nous. Mais ce pas de côté permet de présenter justement le monde en oblique et de le montrer sous un angle qui résonne tout autant avec nous et avec l'âme humaine.
Elle l'incarne dans de nouvelles images, si vous voulez, dans toute une panoplie de nouvelles images et de symboles, finalement, pour interpréter le monde qui nous entoure. Et pour ce qui est de la science-fiction en particulier, qui est en ce moment la parente pauvre, elle est très importante à mon avis, parce qu'elle nous permet d'apprivoiser les sciences et la technologie qui en général font peur parce qu'elles vont trop vite et qu'on ne les comprend pas. Et là, elle les incarne, elle leur donne quelque chose de plus proche qui nous permet d'avoir moins peur en comprenant mieux. Alors ça, c'est précieux.
Vous marchiez, Juliette, au bord de l'eau. Vos quatre ailes rouges sur le dos. Vous chantiez Alice de Lewis Carroll sur une bande magnétique un peu folle. Sur les vieux écrans de 68, vous étiez chinoise mangeuse de frites. Ferdinand Godard, vous avez un baguet de l'autre côté du miroir d'un café. Dans la tire qui mène à Hollywood, vous savez bien qu'il faut jouer des coudes. Les les superstars, les petites filles de Marlène. Vous coinceront Juliette dans la nuit américaine.
Magazine du samedi, le samedi à 9h30 sur Cocktail FM, la radio des Hauts-de-Vosges.
Bonjour madame, que faites-vous à la BMI ce matin ?
Actuellement, je suis une formation, un atelier d'écriture sur la fantasy.
Qu'est-ce qui vous a amené à pousser la porte des imaginales et de cette formation ?
J'avais envie d'apprendre des techniques d'écriture, parce que si l'écriture ne se résume pas à appliquer des techniques, c'est cependant bien utile pour pouvoir raconter des histoires. Donc c'est ce que je suis venue chercher aujourd'hui.
Avez-vous déjà publié ?
Absolument, j'ai déjà publié beaucoup en presse. Moi j'écris pour les enfants, donc j'écris pas de la fantasy jusqu'à présent en tout cas, mais j'écris pour les enfants. Donc en presse, chez Milan, chez Bayard, et puis également chez des éditeurs d'un documentaire, et puis des petits récits voilà, pour les enfants.
Quel est votre nom ?
Muriel Zurcher.
Donc technique d'écriture, technique de relation avec les éditeurs, savoir se vendre, savoir travailler, savoir se poser certaines questions. Ça vous paraît complet comme panorama ?
Oui, je pense que c'est une excellente démarche, parce que c'est vrai qu'en France, la tendance c'est plutôt d'apprendre sur le tas. Donc on passe beaucoup de temps justement à découvrir le monde des éditeurs, comment procéder. On se pose X questions, quelle lettre d'accompagnement mettre avec son manuscrit. Là, en deux jours, on a beaucoup de réponses, on a déjà une base de départ. Et je pense que pour les apprentis écrivains, comme nous sommes tous aujourd'hui, c'est une bonne chose, parce que voilà, on gagne du temps dans la pratique et ainsi on peut avancer plus précisément sur l'écriture elle-même, sur notre passion.
Vous enviez les compatriotes d'adoption, en tout cas d'Elisabeth Warnbourg, pour ce qui est justement de l'enseignement de l'écriture qui est assez généralisé dans les universités nord-américaines.
Oui, c'est vrai que bon, on critique souvent en France le fait que on risque d'avoir un espèce de paramétrage, une homogénéisation des démarches des écrivains qui passent par ces écoles. Moi, je suis plutôt convaincue du contraire. Une fois qu'on a des bases solides, ça permet de donner libre cours à son imaginaire et donc de construire des récits qui ne souffrent pas de difficultés techniques et donc d'avancer encore plus loin. Après, chacun son approche. Je sais que ça porte souvent à débat, cette question. Donc, il me semble que l'important, c'est que chacun trouve sa propre boîte à outils personnelle, la construise de la manière qui lui convient le mieux, et puis comme ça, d'aboutir à un résultat qui satisfasse les lecteurs, surtout.
Je ne sais pas si le talent s'acquiert, mais manifestement, il se travaille, il s'amplifie.
Oui, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose sur lequel c'est un petit peu évanescent. On ne sait pas très bien sur quoi on s'appuie. Mais bon, quand on a envie d'écrire, je crois qu'il faut le faire. On publie, on ne publie pas. Dans tous les cas, c'est un partage et c'est ça qui est important.
Qu'est-ce que vous avez lu le plus récemment ?
Alors, le plus récemment, c'est un livre. Alors, c'est un livre technique, justement, sur la manière d'écrire un scénario de série. Donc, John Truby, qui est script doctor, donc aux États-Unis, c'est-à-dire qui prend tous les scripts de série et puis qui les passe au CRIB, qui a une grande expérience là-dessus et qui a mis au point une technique d'écriture de série. Alors, bon, il n'y a jamais de recette miracle, évidemment, mais ça donne toujours un éclairage. C'était très intéressant.
Bernard Wyss, vous êtes donc le directeur des Imaginales depuis la création du festival, un atelier d'écriture. Alors dit comme ça, ça peut paraître assez banal. En réalité, c'est une chose assez unique.
Oui, parce que nous avons essayé d'y mettre une philosophie très professionnelle. Avec des auteurs, nous avons invité un auteur canadien, Elisabeth Von Arbo, qui a l'habitude évidemment de gérer des ateliers d'écriture en Amérique du Nord, qui est l'auteur d'un ouvrage en particulier sur comment écrire, et qui est assisté par deux autres auteurs français, Lionel Davoust et Jean-Claude Duniac, et nous essayons de donner des outils aux auteurs en devenir, voilà. On pense que pour être sculpteur, pour être peintre, pour être musicien, il y a beaucoup de techniques à apprendre. Et il semblerait qu'en France, être auteur, on est auteur. Voilà, comme ça, la foudre vous tombe sur la tête et vous êtes auteur. C'est pas tout à fait vrai. Il y a des outils, il y a beaucoup de métiers à acquérir. Et c'est pendant 2 jours ce que nous avons l'intention de faire sur Épinal. Bien sûr, 2 jours ne suffiront pas, mais au moins c'est une initiation importante vers la professionnalisation de l'écriture.
Elisabeth Venarborg, pour intervenante, donc c'est aussi un choix très particulier puisque c'est la méthode à l'américaine, une méthode très, comment on va dire, très punchy, pour prendre un anglicisme.
Oui, tout à fait. Donner des outils en 2 jours, ça nécessitait vraiment avoir de la personnalité, avoir du talent, bien sûr, ce que le cas d'Elisabeth, et d'avoir une disponibilité à l'écoute des autres, parce que, bon, évidemment, enseigner, donner ces outils d'écriture, ça veut dire aussi être à l'écoute des gens que vous avez en face. Et là, je crois que nous avons un très, très, très bon animateur de stage d'écriture, d'atelier d'écriture.
À l'issue de ces ateliers d'écriture, évidemment, les stagiaires vont repartir chez eux, vont continuer à travailler avec de nouveaux outils. Et puis, peut-être que d'aucuns se retrouveront l'année prochaine dans ce qui pourrait être un peu l'aboutissement de ces ateliers, c'est-à-dire les speed dating qui permettent la rencontre donc entre écrivains en devenir et éditeurs.
Oui, tout à fait, on peut voir ça comme ça, fort justement d'ailleurs. Les speed dating, nous les avions lancés l'année dernière et ça a fonctionné vraiment très très bien. Donc nous avons pensé qu'il fallait recommencer cette opération. C'est en fait mettre en présence d'éditeurs, cette année il y en aura 5, ce qui n'est pas rien, des auteurs qui normalement, en toute logique, devraient envoyer leurs manuscrits par la poste parce qu'ils n'ont pas les références. Les connaissances et les pistons parfois nécessaires ou les amitiés, enfin, etc. Donc vraiment, là, nous essayons d'innover en matière d'initiative pour l'écriture, pour l'édition. Et c'est ce que nous aimons faire aux Imaginales, ce que nous continuerons de faire aux Imaginales.
Mais qu'on n'imagine pas que le speed dating entre écrivains et éditeurs serve à passer en haut de la pile des manuscrits, ainsi qu'on l'a évoqué tout à l'heure avec Lionel Davoust et Elisabeth Venarborg. Alors que se passe-t-il pendant ce speed dating ?
Là, on a l'occasion de discuter avec l'éditeur et de présenter son travail à l'éditeur. L'éditeur que l'on a en face de soi va vous dire pourquoi il pourrait prendre, parce qu'il y a vraiment un long travail. Là aussi, il y a des lubies, des fantasmes. Quand on est jeune auteur, on envoie, c'est rare qu'un manuscrit, d'ailleurs c'est un pour, je ne sais pas, 20 000, je ne sais pas, qui arrive comme ça sans travail, ça n'existe pas. Donc l'éditeur va dire, oui, votre histoire me semble intéressante, mais vos personnages ne sont pas bien construits, il faudrait peut-être retravailler ça, repassez me voir quand vous aurez travaillé. Je caricature fort, bien sûr, mais c'est ce genre de dialogue qui se déroule au speed dating, et je crois que c'est d'une formation absolument précieuse pour un jeune auteur.
Voilà, on repart pas avec l'assurance d'être publié, mais en revanche avec un vrai conseil qui va permettre d'avancer.
Ah, si on a Marcel Proust qui vient, bon peut-être, mais je vous rappelle quand même que les premiers bouquins qu'il a publiés étaient à compte d'auteur. Donc bon, il peut y avoir une surprise divine, bien évidemment, mais bon, quand même, en général, les auteurs qui arrivent devant les éditeurs au speed dating, ce sont de jeunes auteurs qui n'ont pas nécessairement toute l'expérience requise et qui profiteront de cette rencontre vraiment 2 à 2. Quoi.
Alors peut-être que nous pourrons donner rendez-vous aux 15 stagiaires de l'atelier d'écriture de Lionel Davoust et Elisabeth Venarborg l'année prochaine pour une nouvelle édition, 10e des Imaginales. À suivre.
Voilà, c'est tout pour ce Mac du samedi consacré aux Imaginales. Merci bien évidemment à tous nos interlocuteurs. Un remerciement tout particulier également à la directrice artistique des Imaginales, Stéphanie Nico, sans qui ce reportage n'aurait pas été possible. D'autres rendez-vous avec l'information sur Cocktail FM. C'est dans un instant un point sur l'information nationale et internationale. L'information locale revient, elle, à 12h30. Très bon week-end à toutes et à tous. Excellente fête à toutes les mamans demain dimanche et à bientôt.